Bienvenue au podcast Leadership Positif, le podcast qui vous aide à grandir en tant que personne, en tant que leader, mais aussi en tant que citoyen du monde. L'expression « self-made woman » aurait pu être inventée, je pense, pour mon invité du jour. Bien connue du public français, Absat Oussi est une entrepreneuse reconnue et méritée et qui a mis les mains à la pâte depuis le premier jour. Et au cours des 20 dernières années, elle a créé des entreprises dans des secteurs très différents, comme la beauté, la mode et bien d'autres encore qu'on va découvrir ensemble. Et la plupart de ces entreprises ont eu pour objectif d'autonomiser la vie des femmes et de leur donner des outils pour gérer et assumer leur propre destin.
Donc être entrepreneur de sa vie, c'est prendre à 100% cette liberté à laquelle on a le droit. Et c'est d'accepter à 100% tout ce qu'elle amène avec elle. Donc, les échecs, les difficultés, les rencontres, les conseils, les critiques, et voilà, et tout ce qui va avec. Mais en tout cas, à la fin, mourir comme Piaf en se disant « Non, je ne regrette rien ».
T'es vraiment fascinante de s'asseoir avec Absatou pour découvrir comment elle a tracé sa propre voie en tant que femme d'affaires, accomplie et présentatrice de télévision et de médias aussi, et comment, forte de ses origines africaines, elle a étendu ses activités sur le continent africain. Vous allez vraiment, je pense, adorer cet épisode. Assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin. Absat Oussi, je suis tellement heureux de te recevoir dans ce podcast du Leadership Positif.
Je suis absolument ravie d'être à tes côtés également.
Alors, en te rencontrant, en l'occasion de se rencontrer, en t'écoutant et en voyant un certain nombre de tes interviews, j'étais frappé par le nombre de fois où tu faisais référence à des moments charnières de ta vie pendant lesquels ton père, ta mère, évidemment, ont joué un rôle essentiel et jouent un rôle essentiel. Petit, tu accompagnais d'ailleurs ton papa tous les matins qui partait bosser à 5h50. Alors, est-ce que tu te rappelles pour commencer ces matins-là et qu'est-ce qui te poussait, toi, petite, à te lever si tôt, à prendre la main de ton papa? Et quelles sont les images et quel est l'héritage que tu as gardé en toi de ces matins?
Je m'en souviendrai toute ma vie. D'abord, je me souviens de la poignée de main de mon père. Je me souviens de ses mains de travailleur, ses mains qui étaient pleines de puissance et pleines de force. Et effectivement, je me souviens que tous les matins, j'étais avec lui sur le pas de la porte. Je le voyais prêt à aller travailler. Et j'enfilais mes petites chaussures et je le suivais. Il habitait, il travaillait pas loin de la maison. Donc, je l'accompagnais et puis il me donnait une pièce de 5 francs. Ou de 10 francs parfois. Début de mois, c'était plutôt 10 francs. Milieu, fin de mois, c'était plutôt 5 francs. Une pièce dont je me souviens qu'elle était énorme dans ma main. Elle était énorme, cette pièce de 5 francs. J'en ai revu une récemment et en fait, elle est petite. Mais moi, elle me paraissait énorme. Et en fait, c'était un peu le symbole de ce chemin que je prenais tous les matins avec mon père pour me rappeler qu'il n'allait pas travailler que pour lui-même, mais pour nous. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette maturité très tôt, mais j'avais conscience qu'il fallait que je l'aide, donc j'étais là.
Bon, c'est sûrement de superbes images qui reviennent, j'imagine, dans ta vie de temps à autre, comme on en a pour chacun d'entre nous. Et ton papa, mais aussi ta maman, qui malheureusement est disparue, je crois, l'an dernier, ont façonné, clairement, on l'entend, on le voit, et tu vas nous en parler, des valeurs essentielles pour toi. Des croyances aussi, des vécus au sein d'une famille de 8 enfants. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de tes parents d'abord et comment ils ont réussi à t'élever, parce que c'est quand même pas évident avec 8 enfants, dans une tour de Chaville?
Ma mère est une femme admirable. Tu vois, je parle d'elle au présent parce qu'elle est toujours là dans ma vie. Je me souviens de chaque valeur, de chaque conseil qu'elle a pu me donner. Ma maman, elle est mauritanienne. Et elle a été mariée à 13 ans, elle ne savait pas lire, pas écrire. Et ça n'a pas impacté la détermination et la force de cette femme que j'ai vue élever 8 enfants à la maison. On n'a jamais manqué de rien. Et en plus, elle allait travailler. En plus, ses enfants, elle en gardait d'autres. Elle faisait des ménages et elle faisait tout ce qu'il fallait pour qu'on reste digne et qu'on ne manque de rien. J'ai une admiration immense pour elle. Quand on parle des héros du quotidien, moi, les miens, ils étaient tout près de moi, mes parents. Donc, mon papa, lui, il vient de Orcadière, un village du Sénégal.
Sénégal.
Oui, dans le Fouta, c'était le nord-est du Sénégal. Et mon père, pareil, m'a transmis les valeurs de travail, de dignité, de respect, de résilience. J'ai jamais vu mon père se plaindre. Je l'ai toujours vu debout, fier et digne. Voilà, aller travailler, gagner son salaire et tout faire pour qu'on manque de rien, tout en tenant et en soutenant la famille en France. Il soutenait également la famille en Afrique, parce que ça s'arrêtait pas juste à Chaville, ça s'arrêtait jamais en fait, parce que vraiment aider son prochain prenait tout son sens. Donc non, j'ai eu des parents, moi je dis tout le temps, on disait « Ah, tu viens d'un milieu modeste », et moi je disais « Je viens d'une des familles les plus riches de France, vous vous rendez pas compte la valeur de tout ça
». Et cette richesse, tu le dis, de ta famille aussi, tes origines, tu as pu les ressentir avec ces liens à la fois au Sénégal, en Mauritanie, petite, avec tes frères et sœurs.
Alors moi, je suis partie très tard, je suis retournée très tard. C'est bizarre de dire retournée dans un pays où tu n'as jamais été. Mais en 98, donc j'avais déjà quasiment, j'étais à l'aube de mes 18 ans. Mais j'ai eu l'impression de revenir parce que les valeurs qui m'avaient été transmises venaient vraiment de là-bas, en fait. Et je l'ai vraiment senti. Et oui, j'ai grandi avec. On a grandi d'abord dans une double culture. Mes parents me parlaient peul, donc je le parle couramment. Ouais. Et on a grandi dans une double culture où on embrassait pleinement le pays d'origine de mes parents. Pour mon père, c'était très important, ce pays qui l'avait accueilli. Il avait un immense respect pour ça. Et je pense qu'il nous l'a transmis avec beaucoup de force. Donc oui, j'ai grandi avec ces valeurs-là ancrées en moi. Et récemment, justement, quand je suis retournée au village pour l'enterrement de ma maman, j'ai senti à ce moment-là ce qu'étaient ces valeurs humaines. Ça a été absolument extraordinaire. Je me suis rendu compte que quand on part, quand on quitte ce monde, ce qu'on laisse, c'est des souvenirs dans les mémoires. Et c'est ça qui est essentiel. On ne part pas le plus riche du cimetière, ce n'est pas intéressant.
Non, c'est ce qu'on laisse durablement dans les esprits et les cœurs de toutes les personnes qu'on a aimées et qu'on a aidé à grandir dans sa vie. Alors, toi, tu as commencé vraiment, Absatou, à prendre ton destin en main toute petite. On a parlé tout à l'heure, tu étais petite, 5h50, tu accompagnais ton papa. Mais après, à 12 ans, en fait, tu commences à gagner plus d'argent que ton papa, ce qui paraît incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu crées ton premier business, quelque part, et ton rapport à l'argent alors que tu étais qu'une enfant, quoi?
Mais j'étais pas petite, je faisais plus d'1m30.
C'est vrai. Ah,
effectivement, j'étais la plus riche du quartier. Ouais. Tous les soirs, je me souviens, j'habitais donc une tour de 18 étages et je faisais le tour de la maison de retraite qui était du 1er au 7e. Et j'allais voir toutes les personnes âgées qui me confiaient leur liste de courses. Ah. Et je partais, j'avais mes caddies et je faisais méthodiquement toutes les courses de ces personnes âgées. C'est un super business. C'est un super business. Et je revenais et on me donnait des pièces de 2 francs, 5 francs, 10 francs. Ouais. J'avais des bocaux avec mes pièces stockées dedans. Wow. Et c'est marrant parce que quand je reparle aux jeunes avec qui j'ai grandi de ma génération, ils se souviennent tous d'Absatou qui poussait 3 caddies, un sur 100 mètres, puis le deuxième sur 100 mètres, puis le troisième sur 100 mètres, et ainsi de suite jusqu'à la maison. Et voilà, et je me souviens effectivement de ces moments-là. Qui peuvent paraître des moments difficiles et qui pour moi n'en sont pas. J'ai des souvenirs formidables d'indépendance, d'avoir l'impression d'être déjà une businesswoman. voilà, j'ai des souvenirs heureux de ça.
Et c'est toutes ces pièces de 5, de 10 francs ou autres, tu les as mis quelque part, tu as commencé à épargner, à mettre ça de côté, parce que ça devait être aussi convoité par tes frères et sœurs, peut-être parents, je ne sais pas, ou c'était respecté, c'était ton épargne à toi.
C'était une épargne, disons, encore une fois, très méthodique. Ouais. D'abord, je l'ai dispatché dans des pots différents en me disant, s'il y en a un qui est découvert, au moins, je garde les autres. Okay. Et ensuite, effectivement, ils avaient une utilité importante. Il y a une partie qui servait pour les courses alimentaires, une partie qui aidait pour vraiment le soutien familial, tout ce qui était courses scolaires, etc. Ouais. Et puis, ce qui restait, c'était vraiment pour le plaisir. Donc, moi, je voulais que mes... Ouais, non, pour mes frères et sœurs.
Ah, pour tes frères et sœurs aussi, d'accord. Ouais.
Bah, je voulais qu'ils aient des joggings de marque comme les autres, pour pas qu'ils aient envie d'aller piquer, finalement, et qu'ils aient, qu'ils soient habillés comme nous tous, comme les autres gamins de notre âge. Je dis nous tous parce que je me suis offert mes propres plaisirs à assez tôt. Et c'est vrai que je pensais d'abord à mes frères et sœurs.
Ouais, c'est incroyable d'essayer de visualiser cette histoire avec ces récipients remplis de pièces et déjà une super organisation, visiblement, la distribution d'allocations de ressources sur les différents.
J'en avais beaucoup de pièces.
C'est à l'époque où on avait beaucoup de pièces dans les poches, c'est vrai. Alors, très tôt, tu décides de devenir une businesswoman. Alors, qu'est-ce qui a fait germer dans ton esprit l'idée de devenir une businesswoman? Et c'est quoi d'ailleurs une businesswoman?
Alors, pour moi, ça prend tout son sens, ce mot. On dit, je disais, je vais être une businesswoman. On disait, non, mais donc tu vas être chef d'entreprise. Je disais, non, une businesswoman. Il me disait, oui, bon, la traduction, c'est chef d'entreprise. Je dis, c'est pas la bonne traduction. Parce que chef d'entreprise, c'est conquérir la France. Businesswoman, c'est conquérir le monde. Ah. Et moi, je voulais conquérir le monde. Je rêvais de conquérir le monde. Donc, effectivement, je voulais être businesswoman. Et pour moi, businesswoman, c'était d'abord être libre. C'était de pouvoir être libre, de pouvoir faire ce qu'on voulait, ce qu'on avait envie de faire. C'était voyager, c'était fédérer, c'était créer des équipes, c'était être assise dans un bureau avec un tailleur un peu comme Oprah Winfrey. voilà, c'était ça. Et en même temps, c'était être ma mère aussi et une femme forte et puissante. Donc, c'était un mélange de tout ça.
Mais qu'est-ce qui t'a inspiré cette idée, en fait, Absatou? Tu voyais les séries, à l'époque, il n'y avait pas les séries américaines. C'est quoi, en fait, ouais.
T'as raison de parler des séries américaines, parce qu'à l'époque, à part Arnold et Willy, le prince de Bel-Air est arrivé un peu plus tard. Arnold et Willy, il était adopté, donc c'était pas la super histoire dont je rêvais. Moi, ce qui m'a donné envie de ça, c'est que je voyais qu'il y avait des gens qui étaient capables d'écrire leurs rêves et je ne voulais pas que la société l'écrive pour moi. Je voulais écrire ma propre histoire. Et cette histoire, j'avais pioché à gauche, à droite, tout ce dont je rêvais. J'avais un cahier des rêves et je mettais dessus des images qui m'inspiraient ce que je souhaitais faire. Aujourd'hui encore, à presque 43 ans, j'ai toujours un cahier des rêves.
Ah, j'adore ça.
Et voilà, et je te raconterai une anecdote avec un chèque incroyable dessus. Mais voilà, donc non, je rêvais d'être cette businesswoman que je voyais dans les films, dans les séries américaines, qui n'existait pas forcément dans mon entourage. En tout cas, une businesswoman qui me ressemblait. Et donc, quand ça n'existe pas dans ta réalité, tu crées ta réalité.
C'est super. On reviendra tout à l'heure sur ton cahier des rêves, parce que j'ai vraiment envie de l'ouvrir peut-être un petit peu plus tard. Tu lui diras peut-être si tu veux partager ce qu'il y a d'écrit ou de dessiné. Un petit passage rapide, même si ce n'est pas les choses essentielles, on sait dans une vie, mais ça en fait partie, des études. Tu as fait un bac pro au secrétariat, mais tu n'étais pas faite vraiment pour ça d'ailleurs. Et donc, tu as fait un BTS commerce international et puis tu as complété des études aux US par un stage qui était, à mon avis, pas évident à réaliser à l'époque. Et voilà, et depuis la tour de Chaville, encore moins probablement. Parle-moi un peu de cette expérience que tu as eue aux États-Unis, à New York, et en quoi ça a peut-être cristallisé ta pensée et d'écrire tes rêves et les réaliser surtout.
Tu aurais détesté m'avoir en secrétaire, effectivement. Non, écoute, moi, j'étais pas faite pour ça. J'ai fait un BEP Bac Pro Secrétariat parce qu'à la sortie de ma troisième, il fallait choisir. Rapidement, j'ai été vers le BTS Commerce International. On m'a dit que ça allait être impossible parce que les BEP et Bac Pro étaient considérés un peu comme des voies de garage. Et moi, j'ai poursuivi mon rêve de manière très têtue. J'ai fait un DESE, Commerce Affaires Internationales. Mais ce voyage à New York, il a été pour moi une révélation. Pour moi, New York, c'est la seule ville au monde où t'arrives, t'essayes de soulever un building, un immeuble, on te dit, vas-y, tu peux y arriver. Tu vois? Et je trouvais que c'était une mentalité très différente de l'environnement où j'avais grandi, où on me disait toujours que les choses étaient impossibles. Et donc, j'ai adoré l'effervescence de New York. Et arrivée à New York, je me suis dit, en fait, tout est possible. Et mon premier stage que j'avais trouvé a été annulé. Je me suis retrouvée à arpenter les rues de New York et je suis tombée sur un marchand de chaussures qui a accepté tout de suite de me prendre en stage. Et j'avais été plutôt bonne d'ailleurs en vente. Voilà, et c'est là-bas qu'est né mon rêve parce qu'effectivement, je suis passée devant un salon qui s'appelait Ziba à l'époque, je crois, et qui faisait de la beauté pour toutes les femmes. Et j'ai trouvé incroyable de pouvoir se réunir tous ensemble parce que moi, j'ai grandi avec des copines de toute origine et on ne se posait pas la question de est-ce qu'on peut aller se faire belle ensemble. Et en fait, si, parce qu'à chaque fois on arrivait, on disait, toi je peux te prendre, mais toi je peux pas parce que t'as les cheveux comme ci, parce que voilà. J'avais trouvé ça génial et je suis revenue en me disant que j'allais détrôner L'Oréal.
Alors c'est ça l'histoire, c'est ça qui t'a donné l'idée de détrôner L'Oréal et tu as créé Ethnicia, je crois, ta première entreprise. Alors, c'était quoi ta vision, d'abord, déjà, détrôner L'Oréal, mais comment tu as démarré de rien ou pas grand-chose, je crois, à l'île Saint-Louis, ce qui paraît encore plus improbable pour les Parisiens qui écoutent ce podcast et les autres qui sont peut-être allés à l'île Saint-Louis dans leur vie, surtout quand les banques n'étaient sûrement pas prêtes à te donner de l'argent, quoi. Donc, c'est quoi l'histoire? Comment tu as écrit un peu, pas le business plan, enfin, je ne sais pas, l'histoire d'Ethnicia?
Tu as raison. Alors, j'ai voulu détrôner L'Oréal. J'y suis pas arrivée. Hein.
Ah, mais pas encore. C'est peut-être encore.
Pas encore. Mais je m'étais dit, allez, si je fais 1%, c'est vraiment, vraiment top. C'est déjà bien.
C'est sûr.
Non, quand je disais détrôner L'Oréal, c'est que j'avais envie de créer à la base des produits. Et pour comprendre les produits, je me suis dit, je vais ouvrir des salons de beauté. Et c'est là que je vais bien comprendre comment ça fonctionne. Et c'est comme ça que je suis devenue, d'ailleurs, à un moment, ambassadrice pour eux, pour Davines et des marques internationales. Mais c'est vrai que moi, je pensais que, tu vois, le financement de mon projet allait se faire un peu comme le pouce, tu sais, dans la publicité de la banque qu'on ne citera pas, qui te dit, oh, ben, t'as un projet, tu viens, on te le finance et tout, c'est super. Et en fait, ça s'est avéré beaucoup plus difficile. Et donc, là, c'est une leçon qui m'a été transmise par ma mère. Ma mère, avec ses amis, faisait des tontines. Et avec les tontines, bah, chacun mettait une somme et ça permettait d'investir. Et moi, j'avais mis un peu d'argent de côté. J'ai un ami qui a mis un peu d'argent, Business Angel. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je le dirais. Et puis, j'avais 19 000 euros et c'est comme ça que j'ai démarré. Alors, l'île Saint-Louis, c'est le fruit de l'intuition. Je trouve un local, je te la fais vite, à Châtelet. Je vais voir le propriétaire, je le tanne pendant 3 semaines. Il me dit, OK, c'est bon, on signe. Il arrive, il est là avec son avocat, le contrat préparé et tout. Et j'ai une voix qui me dit, ne signe pas. Je rentre chez moi en prenant littéralement la fuite parce qu'ils n'étaient pas contents. J'arrive, je me mets sur PAP et je trouve ce local sur l'île Saint-Louis. Mais à l'époque, je ne sais pas ce qu'est l'île Saint-Louis. Je ne me rends pas compte du prestige de l'île Saint-Louis. Mais je sais que je visite cet endroit et je me dis c'est le mien. J'ai un propriétaire extraordinaire, ça mérite d'être souligné, qui s'appelle Alexandre Hébrard, je me permets de dire son nom, qui a été... incroyable et qui m'a dit votre business plan il est super, business plan que j'avais fait rue de Rivoli partant de pluie et que j'avais fait vraiment système D parce que j'avais pas la méthodologie pour faire un business plan et il décide de me confier les clés effectivement de ce local qui deviendra le début de mon histoire. Et je me souviens que ce jour-là je prends le pont Marie, je me mets au milieu et un peu comme Rose dans Titanic je crie que je suis la reine du monde et c'est à ce moment-là que mon histoire va démarrer. Et c'est fou parce que à chaque fois que j'aurai des interviews, on me dira, mais t'es sur l'île Saint-Denis? Je disais l'île Saint-Louis, je suis sur l'île Saint-Louis. Et je pense que rien n'aurait été pareil si j'avais pas été sur l'île Saint-Louis. Donc à ce moment-là, je vais voir la banque et j'ai pas de financement et je me débrouille. Et je fais mes travaux toute seule. Je vais chercher mes meubles, je les monte. Mes frères arrivent pour m'aider, c'est déjà trop tard, j'ai déjà tout fait. voilà. Et je suis déterminée, je frotte toutes les belles pierres de l'île Saint-Louis et j'en fais mon premier salon et c'est comme ça que ça naît.
Wow. Et juste quelques mots peut-être pour lui dire quelle était l'expérience quand on ouvre la porte du salon Ethnicia à l'île Saint-Louis quelques années en arrière. Ça ressemblait à quoi si on est une cliente qui rentrait, qui découvrait? Qu'est-ce qu'on avait comme expérience à l'intérieur de ce salon?
Je peux te dire que c'est une expérience que j'ai pas revue encore aujourd'hui, en toute humilité, mais tu entrais, d'abord, tu avais des femmes de toute origine. Donc, tu avais la femme blanche, la femme asiatique, la femme noire, africaine, la femme maghrébine, la femme voilée, pas voilée, tu avais tout le monde. Et tout ça, c'était extraordinaire. Tu étais en plein milieu de l'île Saint-Louis, lieu féerique de Paris, dans des caves voûtées absolument incroyables. Et c'est le seul endroit où tu pouvais avoir un soin des cheveux en même temps qu'un concert de blues, de jazz, où un artiste était là avec son violon et chantait de la soul music. Voilà, c'était ça l'univers d'Absatou. Ça a été ça dans tous mes salons de beauté. C'était beauté globale et sur mesure. Donc, on faisait de la coiffure, de l'esthétique, du maquillage, du conseil en image. On se disait, la femme active, quand elle arrive, elle n'a pas le temps. Il faut qu'elle passe tout au même endroit et en même temps, il faut qu'elle prenne du plaisir. Ça, c'était mon motto, c'était voilà, mon envie et je crois que j'ai réussi à le faire passer pendant pas mal de temps.
Après avoir ouvert son premier salon sur l'île Saint-Louis en 2005, Absatou a développé Ethnicia pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'il soit malheureusement placé sous administration judiciaire et liquidé. En tant que dirigeant, vous devez être prêt à faire face à un échec. Même Steve Jobs, dont les premières entreprises n'ont pas toujours fonctionné, a déclaré « Si vous avez peur d'échouer, vous n'irez pas très loin. » Traiter l'échec de manière positive et s'y adapter, c'est un sujet dont j'ai parlé avec de nombreux invités du podcast. Whitney Johnson, spécialiste du monde des affaires m'a dit que nous devrions considérer l'échec comme un outil de création, tandis que Sal Khan l'a décrit comme une occasion de grandir. Je me suis demandé si ces termes trouvaient un écho auprès d'Apsatou et quelles leçons elle avait tirées de sa propre expérience de l'échec.
D'abord que l'échec, c'est pas grave. Au contraire, c'est une expérience de plus. L'échec, moi j'espère en avoir tout au long de ma vie parce que ça veut dire que je tente des choses nouvelles que je maîtrise pas, mais je vais vers cette excitation dont j'ai besoin, moi, qui m'est vitale. La deuxième leçon que j'ai appris de l'échec, c'est que c'est une réussite différée. Tu vois, c'est comme un sportif, tu tentes, parfois tu y arrives, parfois tu y arrives pas. Et puis un jour, le coup, il part et il est formidable. Et le lendemain, tu joues pas très bien. Je pense un peu au golf, je pense au tennis, je pense à plein de choses comme ça. Et ça, faut l'accepter. Mais ce que te laissent ces expériences-là, c'est inégalé. C'est absolument formidable. J'aurais jamais appris autant si j'avais été dans le salariat. J'aurais appris différemment, mais j'aurais pas appris autant. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Et la troisième leçon, c'est que l'échec t'apprend l'humilité. L'humilité de dire, je ne suis pas infaillible, je ne suis pas une Wonder Woman, j'ai le droit d'échouer, parce qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'échouer. Quand t'échoues, on te pointe du doigt, t'es convoqué au tribunal comme si t'étais un criminel, alors que t'as juste tenté des choses et que t'as le droit d'échouer. Et c'est comme dire à un enfant, tu marches, mais t'as pas intérêt à tomber, en fait. Tu vois. Et moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois que l'échec m'a appris des choses absolument formidables. Et je peux te dire qu'un peu comme la mort, j'ai plus peur de l'échec et j'ai jamais eu peur, en fait, de l'échec. Ça, c'est... En fait, je crois que quand t'as rien à perdre, quand t'as rien à perdre au début, t'as jamais peur de l'échec. Parce que l'échec, ce qui nous fait peur, c'est de perdre du matériel en réalité. Et le matériel n'a pas la même importance quand t'avais rien, en fait.
Bien sûr. Superbe leçon à méditer pour tous ceux, celles d'entre de nos éditeurs qui sont des entrepreneurs dans leur vie, d'ailleurs, au sens large du terme. L'entrepreneuriat, ça peut être très dur aussi. Tu sais que moi, au sein de mon association Live for Good, on accompagne plein de jeunes entrepreneurs dans la transition sociale et environnementale. Et des fois, il y a des situations de burn-out très compliquées parce qu'on se donne à fond pour sa cause, pour son initiative, pour changer le monde ou pour son entreprise. Et toi, un jour, tu te retrouves sur la place de la Concorde sans savoir où tu es, en plein burn-out. Et il y a un appel de ton père qui va littéralement te ressusciter. J'utilise ce mot parce qu'il est fort, mais je crois que c'est un peu le cas, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous raconter cette scène que j'imagine vit encore dans ton cerveau très fortement, les images que tu en as, cet appel, cette voix de ton père? Qu'est-ce qu'il t'a dit et en quoi ça a modifié ta vie, Apsatou?
Il m'a ressuscité. Je crois que tu as utilisé vraiment le terme parfait. On ne me l'a jamais dit depuis que je raconte cette histoire. Et je crois que c'est vraiment cette symbolique-là. Donc, merci pour ça déjà. Et je suis ravie juste pour ça de faire ce podcast ce matin. Parce que il m'a ressuscité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu sais, à un moment, tu te convaincs que tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Sauf que ton corps, il te dit à un moment... Vas-y toute seule, parce que je vais plus te porter, je ne te suis plus, je ne peux plus, en fait, en réalité. Et ce jour-là, je suis dans un épuisement total. Je suis complètement inconsciente. Je ne veux pas écouter. C'est pas que je n'entends pas, c'est que je ne veux pas écouter. Et je quitte l'île Saint-Louis, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une heure de temps s'est passé entre le moment... Je ne quitte pas l'île Saint-Louis, pardon. J'arrive sur l'île Saint-Louis et mon salon, je le vois. Il est à 100 mètres. Je dois aller me garer. Et en fait, je reprends conscience. Je suis place de la Concorde.
Concorde. Tu t'es jamais garé.
Ma tête. Je ne me suis jamais garé. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais je sais que ça a duré à peu près une heure parce que le dernier appel passé, c'est ma mère. Et donc, je sais que ça a duré à peu près une heure. Et là, je mets la tête dans le guidon et je commence à pleurer. Mais des larmes, j'imaginais pas que mon petit corps puisse contenir autant d'eau. Je le dis vraiment, je pleure. Mais je sais pas pourquoi je pleure. Tu sais, comme un épuisement absolu. Et je rentre chez moi et je me terre et je pleure. Et à ce moment-là, mon père m'appelle. Mon père, c'est mon meilleur ami. Mon père, on se parle tous les jours de ma vie. Et si je lui parle pas, c'est une journée ratée. Il y a un problème. Et en fait, mon père m'appelle et me dit, Apsatou, est-ce que tu vas bien? Et je lui dis, oui, ça va. Tu vois, je reprends le petit côté, je me mens à moi-même et je lui dis, je vais bien. Il me dit, alors, je vais t'expliquer un truc. D'abord, tu voulais que je sois fière de toi. Je suis fière de toi, c'est bon. Mais maintenant, tu vas commencer à vivre pour toi. Il dit, tu sais, Ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre. Mon père, faut savoir qu'il venait dans mes salons.
Ah oui.
Dès qu'il me voyait pas, au bout de 2 jours, il débarquait avec son grand boubou et il saluait tout le monde dans mes salons. Et je lui disais, mais on fait pas comme ça en France, on salue pas tout le monde.
Clients.
Il me disait. Ouais. Et il me disait s'il est... et en plus, il allait voir les clients. Il disait, comment ça va, la famille, ça va, les enfants, ça va. Et je disais, mais papa, on fait pas ça. Et il me disait, mais si les gens sont pas normaux, c'est pas mon problème. Et ça, j'adore cette phrase. Ouais. Et mon père me dit, tu sais, ma fille. Ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre et que j'arrive pas. Viendra un jour où tu essaieras de me joindre et tu pourras pas. Cette phrase m'a littéralement ressuscité, a remis au centre de ma vie les valeurs qui étaient les miennes et celles transmises par mes parents. Et je me suis souvenue qu'à un moment, je courais après quoi ? Après du matériel, donc après rien. Et qu'il fallait que, voilà, je me recentre très, très vite sur l'essentiel et que je commence à vivre. Et en fait, à l'époque, tu sais, je passais à la télé, c'est super, tout le monde te disait, waouh, t'as réussi ta vie. Et moi, je considérais pas l'avoir réussi. J'avais des huissiers tous les matins, j'avais des problèmes tous les matins, j'arrivais pas à payer mes factures. Mais j'étais dans cette tour imaginaire où tout le monde pensait que c'était formidable. Et en fait, j'étais dans une prison dorée. Et donc là, ce jour-là, les mots de mon père m'ont littéralement ressuscité. Merci. Merci de m'avoir trouvé ce terme.
Non, mais c'est incroyable de voir le pouvoir aussi des mots de des personnes qu'on aime et qui nous aiment tant, notamment nos parents, son père, sa mère, et ce mot de la fierté pour un enfant, il est tellement fort et il peut porter tellement d'énergie après dans la vie de cet adulte quand il va grandir. Et il est jamais trop tard pour le dire d'ailleurs. C'est pas une question d'âge. Alors dans l'une des éditions précédentes de mon podcast, j'ai parlé au professeur Herminia Ibarra, qui est auteur d'un très beau livre qui s'appelle Working Identity. Et en fait, ce livre, c'est où elle parle du fait d'être l'entrepreneur de sa propre vie, ce qui, par coïncidence, d'ailleurs, est le titre d'une conférence TED que tu as donnée il y a quelques années, voilà, parce que c'est vraiment un thème fort. Et Herminia soutient que la connaissance est le résultat de l'action et de l'expérimentation. La transition de carrière n'est pas un chemin rectiligne, dit-elle, vers une identité prédéterminée, mais un voyage tortueux au cours duquel nous essayons une multitude de moi possible. Donc, c'est en faisant qu'on apprend qui on est et ce qu'on va devenir. Et ce n'est pas en se posant la question tous les matins sans se résoudre à l'action. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être l'entrepreneur de ta propre vie et quel est le lien avec la perception que tu as de toi-même, finalement ? Voilà.
D'abord, je trouve cette définition parfaite. Je trouve qu'elle est vraie, elle est complète. Pour moi, être entrepreneur de sa propre vie, c'est se lever et décider de son destin. Tu sais, c'est cette phrase de William Henley, être capitaine de son âme, maître de son destin.
Oui,
ça veut dire, c'est prendre des décisions et les assumer. C'est se dire que ça va être difficile. C'est se dire que quand on veut quelque chose de grandiose, comme dit très bien mon père, petit problème, petit quelqu'un. Grand problème, grand quelqu'un. Et petit projet, petit quelqu'un. Grand projet, grand quelqu'un. Donc, si tu veux des grands problèmes, tu vas aller vers des grands projets. Mais derrière, il faut assumer.
Et donc, pour toi, être entrepreneur, c'est fondamentalement une question de liberté. C'est ça ? C'est un mot qui est important, qui revient dans ce que tu dis.
Oui. Ça, c'est le truc. Je suis intransigeante là-dessus. Pour moi, être entrepreneur, c'est être libre. Et c'est après ça que je cours. Je cours après cette liberté, en fait. Aujourd'hui, j'ai compris. Je ne cours pas après le matériel. Je ne cours pas après la reconnaissance ni la notoriété. Je cours après cette liberté. Voilà. Moi, c'est celle qui me nourrit, me stimule au quotidien.
Et c'est la liberté notamment de t'accomplir, de te remplir de belles choses ou de choses qui te font grandir et qui te permettent d'avoir un impact plus important auprès des autres, en Afrique, en France ou ailleurs d'ailleurs.
Oui, bah écoute, tu vois, je viens d'arriver au Sénégal. Et on a connu quelques difficultés. Il y a eu l'élection présidentielle récemment. Oui. Donc, les investisseurs étrangers ont gelé leurs investissements, etc. C'est pour ça que j'arrête pas de crier qu'il faut être complètement autonome et ne pas dépendre des autres. Oui. Mais j'ai vu dans les yeux des jeunes que j'accompagne hier, ouf, on va pouvoir reprendre le chemin vers cette liberté qui était la nôtre. Et capitaine, parce qu'ils m'appellent comme ça. Certains m'appellent maman, d'autres m'appellent capitaine. Mais va remettre l'énergie dont on a besoin. Et là, je me rends compte qu'effectivement, ils ont besoin que de ça, peut-être, pour continuer ce cheminement, ce parcours tortueux qu'on est en train de prendre vers cette indépendance que l'on souhaite et cette dignité retrouvée pour ces jeunes et que je ne leur apporte pas. C'est pas moi qui leur apporte. C'est eux qui vont chercher avec moi.
C'est eux qui vont chercher.
Et c'est ça qui est formidable. Mais cette impulsion, peut-être, que je donne, révèlent chez eux leur plein potentiel. Et là, ils sont capables de faire des trucs absolument formidables. Qu'ils n'imaginaient même pas eux-mêmes. Et ça, c'est aussi l'histoire de ma vie. En fait, j'ai passé mon temps à faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire et pas savoir faire.
Ouais. Ouais, c'est super que tu puisses le transmettre. On en reparlera tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on fasse un petit passage par ton moment dans les médias. Parce que, voilà, alors que ton entreprise est en cours de liquidation, tu commences une carrière à la télé, voilà. Est-ce que tu as. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que cette expérience, cette présence à l'écran, a changé la donne pour toi et de quelle manière? Qu'est-ce qu'elle t'a pris d'essentiel que tu utilises aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu n'as peut-être pas aimé non plus? Parce que, voilà, il y a peut-être un arrière-décor qu'on ne connaît pas, hein, quand on est spectateur, on voit ça, de ce qui se passe. Voilà, quels sont les beaux moments, ce que tu en as retiré, qui t'aident aujourd'hui, puis peut-être des choses un peu moins agréables?
Écoute, la télé, ça a un impact unique. C'est absolument formidable. Et jamais je vais renier ce que ça m'a apporté. Ça a été un bouleversement dans ma vie. Du jour au lendemain, ta marque, elle est connue d'un plus grand nombre. Ouais. Ce pourquoi tu te bats au quotidien est accéléré. Et ça a été d'ailleurs l'un de mes problèmes. C'est que tout a été accéléré trop vite. J'ai pas su maîtriser la croissance. J'ai pas su bien m'entourer. Et j'ai pas su m'entourer de meilleur que moi à ce moment-là. Parce que je savais pas comment apprendre tout ça en même temps. Ouais. Mais la télévision a cet impact fou. C'est de mettre en lumière peut-être ton histoire, ton parcours et de faire en sorte que ça puisse toucher des gens qui vont adhérer à ce que tu fais. Moi, j'ai connu la belle télé à l'époque du Grand 8, avec Laurence Ferrari, Roselyne Bachelot, Elisabeth Post, Audrey Pulvar, c'était super. On a connu une télé empathique, une télé où on parlait vraiment aux gens. Et puis après, j'ai découvert cette télé que j'aime pas, cette télé où tu perds cette authenticité. J'avais rencontré Philippe Labro à l'époque qui m'avait dit le seul moyen de durer en télé, c'est d'être vrai. Et je crois qu'il a raison. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans ce milieu de la télé et qui croient être ce qu'ils ne sont pas en réalité.
Et c'est toujours possible, pardon, selon toi, aujourd'hui, en 2024, d'être vrai à la télé?
Tu en vois certains qui sont vrais?
Ça m'a coûté
d'être vrai, mais je renierai pas ça. Je resterai authentique et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai une grosse communauté qui adhère à ce que je suis aujourd'hui. C'est que j'ai toujours été vrai dans les difficultés comme dans les super bons moments. Faut savoir rester humble. Parce que si t'existes à la télé, c'est juste parce qu'il y a des gens qui te regardent. Mais c'est pas parce que t'es supérieur, c'est pas parce que tu es au-dessus des gens. T'es juste derrière un écran et les gens te donnent de la force en te regardant. Et ça, je crois que les gens, ils l'oublient et ils pensent qu'ils se sont fait tout seuls et qu'ils sont devenus des stars de la télé comme ça. Non, pas du tout, en fait. Sois reconnaissant, sois humble, ça, c'est essentiel. Mais dans mon business, effectivement, ça m'a beaucoup apporté. Et en même temps, c'est difficile parce que quand t'as des difficultés, quand tu te plantes, quand tu te rates, bah, t'as les lumières et les projecteurs dessus. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai connu quand j'ai liquidé ma boîte. Il y avait des boîtes qui étaient liquidées bien plus grosses que la mienne, avec plus de collaborateurs. Mais c'est moi qu'on voulait interviewer. Et pas de problème, parce que moi, j'ai toujours témoigné sur mes réussites comme mes échecs. Et c'est ce que je dois à ma communauté. Ils veulent être entrepreneurs. Je dois leur dire la réalité du terrain. Et donc voilà. Donc, cette télé a été formidable, mais elle m'a coûté des combats très lourd, dont un que je viens de terminer, que je viens de gagner. Mais ça a été difficile. Donc, du jour au lendemain, on te met au placard. Et moi, je connais pas le fait qu'on me mette au placard parce que j'ai toujours été patronne de ma propre vie. Donc, on me met pas au placard, si tu veux. Et de perdre justement cette liberté et ce contrôle, c'est pénible. Mais en même temps, c'est moi qui ai démissionné à un moment disant je pars parce que il y a un problème, en fait, et je ne veux pas être traitée comme ça. Donc, à la fin,
tu as repris ta liberté, toujours, tu as gardé ta liberté. Tu as gardé ta liberté.
Toujours.
Alors, j'aimerais qu'on revienne justement aussi à ces très belles initiatives que tu as dans ta vie au niveau entrepreneurial, notamment d'aider et encourager les femmes à prendre leur vie en main. Et j'aimerais que tu me parles un peu des beautypreneurs. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement, si c'est un mouvement d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, j'aime bien voir les choses se métamorphoser quelque part en mouvement avec des auto-entrepreneurs de leur vie. En quoi ça consiste et qu'est-ce que tu as pu réaliser à ce jour avec les beautypreneurs?
Alors, c'est devenu les lifepreneurs.
Et les lifepreneurs, OK.
Lifepreneurs, donc entrepreneurs de leur vie. Oui. C'est la façon que j'ai trouvé de nommer ça. En fait, c'est une chaîne humaine absolument extraordinaire aujourd'hui. En tout cas, elle l'est devenue. Parce que, par exemple, je commercialise du vétiver, une formidable tisane qu'on fabrique, qui pousse au Sénégal, qui est cueillie par les femmes du Sénégal, donc qui leur donne un salaire. Ouais. Puis, conditionnée par les jeunes du Sénégal, ce qui leur donne un salaire, arrive en France et commercialisée par des femmes française, ce qui leur donne un salaire et un complément de revenus. Mmh. Et derrière, ça fait plaisir aux clients. Je trouve que cette chaîne est absolument formidable. Et c'est ça, être Lifepreneur. En fait, Lifepreneur, c'est justement ce dernier maillon. Des femmes qui sont à la maison ou qui travaillent, qui peuvent être directrices d'agences bancaires. On a des directrices d'agences bancaires comme des personnes qui sont femmes au foyer, ce qui est un vrai métier. Voilà. Et en fait, elles vont effectivement organiser, tu sais, ces réunions tupperwares de l'époque.
Okay. Ouais, ouais.
Mais très modernisées avec des thématiques de société. Elles discutent, elles échangent et puis on va présenter nos produits. Elles vont les commercialiser et les vendre. C'est ça, être Lifepreneur. Mais c'est aussi avoir du soutien moral, mais aussi en termes de formation. Donc, c'est une académie de formation à l'année, gratuite, avec plein de speakers, d'intervenants. D'ailleurs, j'adorerais t'avoir en speaker.
Avec grand plaisir.
Voilà. Je sais que quand tu fais une demande en public, elle est plus facilement acceptée.
Non, j'ai tendance à honorer mes demandes, généralement. Vraiment.
Ouais. Et puis, ta générosité, elle est évidente.
Donc, grand plaisir.
Donc, voilà. Donc, Lifepreneur, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un... À l'époque, j'avais, jusqu'à avant mes difficultés que j'ai eues en télé et ce harcèlement que j'ai subi qui m'a conduit à un deuxième burn-out d'ailleurs. Je suis montée à 1200 Lifepreneurs en 4 mois. En 4 mois, c'était du jamais vu. Et aujourd'hui, je sors enfin de cette période qui a été difficile avec ce procès interminable, bon, qui se poursuit encore un peu, mais qui a été gagné. Et donc là, je reprends et je te donne rendez-vous fin d'année prochaine et j'espère que j'aurai 2000 Lifepreneurs et que ça va être formidable parce que tu te rends pas compte, mais... Un jour, j'adorerais te montrer la réalité du terrain. Ces femmes, elles font un boulot extrêmement difficile de cueillette. C'est physique, avec l'enfant sur le dos, en pleine chaleur. Elles sont incroyables. Elles sont puissantes, elles sont fortes, elles sont dignes. Elles ne mendient pas, elles ne quémandent pas. Elles veulent le fruit de leur travail. Et derrière, ces jeunes comme ça qui s'émancipent et grandissent à travers tout ça, c'est extraordinaire. Et ce projet ne peut pas être abandonné. Il peut que grandir. Voilà, c'est ce qui me stimule maintenant, moi. Et pour la première fois de ma vie, on me souhaite pas bon courage pour aller au travail.
Okay.
On me dit, t'as trop de la chance.
Je trouve vraiment intéressant ce que dit Absatou à propos des fêtes tupperware. Certaines personnes les critiquent parce qu'elles renforcent les stéréotypes, mais d'autres disent que tupperware a donné aux femmes le contrôle de leur vie. Quelle que soit votre position dans ce débat, l'aspect social est fondamental. Comme le dit Absatou à propos de sa propre entreprise, il s'agissait d'un environnement où les femmes s'entraidaient. C'était d'ailleurs l'un des ingrédients du succès de Tupperware, et c'est un modèle qui a été reproduit dans d'autres entreprises où les gens peuvent travailler à domicile et gérer leurs diverses responsabilités. Alors, j'aimerais justement qu'on remette un pied maintenant dans le continent africain, puisque tu t'y trouves au moment de ce podcast. Et tu as plein de projets en Afrique, plein de choses qui ont démarré. J'aimerais que tu nous parles. Alors, il y a beaucoup de sujets, peut-être tu choisiras. Il y a Green Tech, il y a Atypique Africa et il y a Africa Myth. Donc, ça fait plein de choses. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots et pourquoi tu t'es engagé sur ces projets?
Les trois projets de ma vie et les trois sont liés. Green Tech, justement, c'est le leader français, mais le leader aussi à l'international, l'un des leaders internationaux des matières premières cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, très engagé dans l'environnement et qui fait des choses absolument formidables. On a besoin d'expertise et on a su en trouver une partie, en tout cas chez Green Tech. Aujourd'hui, je représente la filiale Afrique de l'Ouest de Green Tech.
D'accord.
Atypique Africa, c'est ce qui chapeaute mes activités de conseil store là-bas. Donc, on a des lieux absolument incroyables où tu as effectivement de l'artisanat, du commerce, tu as des industries créatives, etc. C'est le plus beau, il est à Mamel, à Dakar, il fait 2000 mètres carrés. Okay. Il est absolument... c'est un peu nos galeries Lafayette de la créativité, mais aussi de la transformation parce que on est en train de mettre en place un marché où on commercialise les produits issus de ces productions-là. Mmh. Et ensuite, ça passe sur mon site internet où on va vendre toutes les créations. Et je suis ravie parce qu'Atypique Africa sera enfin à Maison et Objets, ce qui est une consécration pour nous cette année. Donc, on est content parce que c'était un gros projet. Et le mythe, c'est un projet fou que j'ai lancé. La première édition a été difficile parce qu'il y a eu des événements politiques qui nous ont conduits à annuler. La deuxième sera meilleure et j'espère qu'on sera là dans 10 ans parce que le mythe, c'est « make it happen ». Ça, c'est un projet qui est pour moi très important parce qu'on a identifié toutes les priorités du continent qui concerne les jeunes, les femmes, oui. l'emploi, la santé, l'agriculture, l'entrepreneuriat, etc. Et on en a fait un événement qui devait durer sur 11 jours, pendant lequel, justement, sous forme de hub comme ça, on traitait tous ces sujets-là à travers des masterclass hyper puissantes, avec des speakers venus du monde entier, avec leurs best practices. Et l'idée, c'était de partager, d'échanger, mais de concrétiser. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup d'événements comme ça, internationaux, ça parle, ça parle, et puis derrière, il ne se passe rien. Là, l'idée, c'est qu'on voulait créer 5 000 emplois à travers ce projet-là. Donc, l'édition 2 arrivera prochainement. Et pour l'instant, ce que vous voyez au sein d'Atypique Africa, en réalité, c'est le quotidien, c'est le mythe, mais au quotidien.
D'accord.
Et le mythe, c'est un événement annuel. Voilà. Donc, je crois que j'ai bien synthétisé, ou en tout cas, j'espère que vous avez compris.
Super. Et c'est ce qui suppose, j'imagine que tu passes encore de plus en plus de temps en Afrique, quoi, compte tenu de cet écosystème que tu es en train de développer. J'aimerais maintenant, pour cette dernière partie un peu du podcast, surtout qu'on parle de leadership. Voilà. Parce que, tu as eu tellement d'expériences différentes d'entrepreneuriat, dans les médias, dans la beauté, dans la coiffure, on a parlé un petit peu de ces chaînes de valeur sociales également, en Afrique, en France. Mais ta vie, elle a été aussi marquée par des moments forts, par des succès, des échecs, et tu nous as confié un petit peu tes leçons. Et puis aussi des sauts en parachute, je sais que tu m'en avais parlé, qui t'ont particulièrement, pas simplement marqué, mais absolument. Et puis évidemment, la fierté ton père pour ce que tu as réalisé, et puis le courage de ta mère dont tu as parlé. Donc enfin, toi aussi, tu es devenue une maman, et puis à 40 ans, tu as décidé de t'émanciper complètement du jugement des autres. Donc, quels sont après ces moments si forts finalement dans ta vie, quel type de leader es-tu, Absatou ?
Oui, tu as raison, je suis née le jour de mes 40 ans. J'ai décidé que la vie des gens, c'était la vie des gens. Mais j'ai décidé de m'émanciper complètement de cette chose qui nous paralyse beaucoup dans nos actions, dans ce que l'on est. Et on est quelqu'un d'autre parce qu'il faut coller à ce que la société voudrait que l'on soit.
Conformité.
Et moi, je me suis... Voilà, être conforme. Non, moi, j'aime pas cette conformité. Et oui, j'ai effectivement décidé de m'émanciper du jugement des autres. Et depuis, je vis ma meilleure vie. Je vis ma meilleure vie. J'ai conscience que je suis pas parfaite. Je n'ai jamais considéré l'être, mais encore plus, je peux être un être puissant comme un être faible et fragile parfois. Et je l'accepte pleinement. Et j'ai le droit de pas être maquillée en jogging, pas toujours sur mon 31 avec des talons de 12. Voilà. Parce que tu sais, cette société d'apparence t'oblige à toujours être parfaite. Voilà, non, en fait. Non. On a le droit d'être juste soi, authentique et vrai. Et que ça plaise ou ça ne plaise pas, c'est le chemin que j'ai choisi, en tout cas.
C'est un super chemin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de leadership et de leader ? Parce que tu es une leader, hein, c'est évident, qui inspire des jeunes, et pas que des jeunes, des familles, des communautés, on en a parlé. C'est quoi pour toi d'être une leader ?
Être leader, c'est fédérer, c'est embarquer avec toi les gens, c'est pas les porter sur ton dos, c'est pas assister, faut pas confondre assistanat et accompagnement, c'est accompagner les gens vers la meilleure version d'eux-mêmes. Et en fait, je crois que quand tu décides justement de t'émanciper du jugement des autres, tu arrives face aux gens en étant puissant, puissant dans le vrai sens du terme, ça veut dire en étant juste toi-même. Et tu n'as pas peur de te tromper, tu n'as pas peur de dire que tu n'as pas réussi, tu n'as pas peur de dire aussi que tu réussis certaines choses. Mais tu as surtout conscience que la puissance du collectif n'équivaut en rien à cette puissance personnelle. Tu es quand tu es tout seul, mais tu es encore plus quand tu es ensemble, avec d'autres, tu vois, en groupe. Et je crois que c'est ça le leadership, c'est quand tu comprends que même le sportif que tu vois tout seul sur le terrain, il est pas tout seul. Quand Nadal, il doit marquer la balle de match, il a son coach, il a ses supporters, il a son masseur, il a même ses adversaires, tu veux. Ouais. Et donc, je crois que le leadership, c'est de comprendre tout ça à 360 et de dire, OK, avec tous ces éléments-là, j'ai décidé d'avancer et j'aimerais avancer avec vous. Le qui même me suive, il est vrai, il n'est pas vrai.
Oui.
Tu vois, c'est un côté... Ouh, ça a coupé.
Non, t'entends toujours.
C'est bon. Non.
Ça continue.
Ouais. Le leadership, il a ce côté, quoi, le qui même me suit, il a ce côté un peu peut-être arrogant.
Oui.
Tu vois, c'est comme ça. Ça veut dire que tu fais pas de concessions.
Oui, oui, oui.
Or, quand tu vis dans le collectif, tu fais des concessions.
Bien sûr.
Et tu acceptes d'arrondir les angles pour vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle vivre en communauté avec les autres. Donc, je crois que le vrai leader, c'est celui-là.
C'est celui-là.
Et si en je rajoute. Mon leadership à moi, c'est celui-là.
Non, absolument. Et si je rajoute un mot, un adjectif à ça, et tu me vois venir, évidemment, un leader positif. Parce que, comme tu sais, voilà, c'est le thème de ce podcast. C'est ce que j'essaie d'apprendre, moi aussi, depuis quelques années, dans mes différentes vies professionnelles, associatives aussi. Ben, tu m'as fait de grand plaisir d'être au jury de Prix Gabriel Lee for Good il y a quelques mois déjà. Et on essaie de développer par, finalement, beaucoup de travail personnel avec ces jeunes entrepreneurs, entrepreneuses, l'énergie positive qu'ils ont en eux pour finalement connecter leur mission personnelle avec un mouvement pour changer le monde. Voilà, je résume très, très simplement parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. C'est quoi pour toi d'être un leader positif et comment tu le vis dans ta vie?
Moi, j'adore cette dimension de leader positif. Le leader positif, c'est le leader plus. Et c'est le leader plus les gens, parce que s'il n'y a pas le plus les gens, t'es leader de rien.
Ouais,
tu fédères et t'emmènes personne. Le leader plus, c'est celui qui apporte sa pierre à l'édifice. Le leader positif, c'est celui qui va venir révéler. C'est le leader qui va... Alors, quand je parle de révéler, c'est révéler les personnes, mais révéler aussi l'environnement et ce que le monde nous apporte. Le leader positif, c'est celui qui veut faire les choses, mais bien. Ça veut dire pas dans le but unique de s'enrichir, parce que tu peux t'enrichir pour réinvestir dans des projets qui sont top, mais c'est celui qui va impacter, c'est celui qui va créer de l'impact. Le mot impact est un vrai plus. C'est un leader qui va aller impacter son quotidien, le monde, les gens, l'environnement, etc., de manière positive. C'est ça, un leader positif. C'est quelqu'un qui, parfois aussi, s'oublie, entre guillemets, pour faire exister ce collectif dont je parle et qui est tellement important. Voilà, pour moi, le leader positif, c'est tout ça. Je crois que c'est ce que tu es, parce que moi, j'ai participé à ton initiative. Je sais que ce podcast, c'est toi qui me poses les questions, mais je veux dire aussi la puissance des actions que tu portes, parce que justement, tu as compris ce qu'était que ce leadership positif, et c'est celui dont on a besoin. Pas que celui qui capitalise, c'est celui qui s'enrichit de l'impact qu'il crée.
Eh bien, écoute, je te remercie surtout de m'inspirer, de nous inspirer avec tous nos auditeurs sur ce que tu fais, parce que je pense qu'effectivement, si je t'ai choisi, c'est pas un accident, c'est parce que tu es une leader positive et qu'il a démontré et qu'il continuera à le démontrer. J'aimerais maintenant, on est vers la fin, Absatou, malheureusement, ça va vite, qu'on ouvre un petit peu un autre espace. Tu sais, on a tous des endroits, des espaces, des paysages, quelquefois des maisons dans lesquelles on ressent profondément pourquoi on aime être sur cette terre. Alors, si je te donnais le choix, c'est un mini-quiz entre trois maisons. Tu vas voir qu'il y a des références, je pense que tu connaîtras. Celle où tu habites d'abord avec ta famille aujourd'hui. Ben oui, on a une maison, on habite avec sa famille. Premier choix. Deuxième choix, une petite maison blanche avec des volets bleus dans la nature. Ah, je crois que tu connais ça. Et le troisième, c'est une maison sans toit au Sénégal. Mais je sais que le toit, il a été mis ensuite parce que tu l'as mis pour ton papa. Quelle est la maison que tu choisirais et pourquoi?
Oh là là, ta question est trop difficile, tu le sais. Hein. Je ne peux pas choisir.
Explique-nous pourquoi.
Mais la maison sans toit, c'est un chapitre de mon livre. Effectivement, je raconte. Ouais. Mon père était si fier de me dire qu'il avait construit sa maison au Sénégal. Et le jour où je la visite, je sens sa fierté. Je lève la tête et je vois qu'elle n'a pas de toit parce qu'il n'a pas fini de la construire, comme beaucoup de personnes qui partent à l'étranger, qui construisent step by step. Et je jure de tout faire pour finir de construire cette maison, chose que j'ai réussi à faire. Et ça, c'est pour moi une réussite, tu vois, c'est celle-là. La maison au volet bleu, c'est celle de Ryan Gosling dans ce film, le plus beau film d'amour qu'il existe, qui s'appelle N'oublie jamais. Si vous ne l'avez pas vu, c'est obligatoire de le voir. Et où, effectivement, à un moment, frappé par Alzheimer, ce monsieur dit quoi, pas se voir sa femme tous les jours, qu'il ne le reconnaît plus. Et il dit, mais ses enfants lui disent, mais rentre à la maison maintenant. Ouais. Et il dit, c'est elle mon chez moi. Et ça, c'est le symbole fort de l'amour. C'est absolument extraordinaire. Ouais. Donc, je vous souhaite tous d'avoir des maisons au volet bleu. Et dedans, cette maison au volet bleu symbolise la réalisation du rêve, la concrétisation du rêve. Et c'est cette maison au volet bleu que j'ai eu la chance d'habiter un jour parce que je l'ai rêvé tellement fort que je suis allée m'asseoir dedans. Et cette maison avec mes enfants, avec ma famille, c'est évidemment la maison sans laquelle toutes les autres n'existent pas. Ça veut dire que c'est une maison où, tu vois, si t'es pas entouré d'amour, t'es nulle part. Ouais. T'as pas de maison, en fait. Tu peux être dans un sublime château. S'il y a pas l'amour, t'es nulle part. Voilà. Et c'est ça, ces maisons-là. Viens s'ajouter maintenant une dernière maison, c'est celle au village, à Orcadière, où j'ai été accueillie. Je l'ai postée sur mes réseaux sociaux. Et là, l'accueil a été tellement humain que ça te rappelle d'où tu viens. Et ça, et que surtout, l'amour du prochain, c'est ça, quoi.
Ah, c'est superbe. Alors, je ne sais pas si on trouverait ces différentes maisons dans ton cahier des rêves. J'aimerais qu'on y revienne avant la fin, avant ma toute dernière question. Qu'est-ce qu'on trouve, Absatou, sur ton cahier des rêves aujourd'hui? Si tu peux le partager, hein. Voilà,
bien sûr.
C'est très privé, très personnel, hein, cahier des rêves, je pense.
Écoute, à l'époque déjà, j'avais collé, je te raconte l'anecdote rapidement, mais un chèque d'un million d'euros à l'ordre de moi-même.
Wow.
Et j'avais juré qu'un jour, j'aurais un million d'euros sur le compte bancaire de ma société. Chose que j'ai réussi à faire. Parce que pour moi, la levée de fonds, c'était tellement éloigné de ce que j'avais appris à faire dans ma vie que c'était inatteignable. Donc ça, c'était un des trucs que j'avais collé qui était au-dessus de mon bureau et dans mon cahier des rêves. Mais dans mon cahier des rêves, aujourd'hui, je rêve vraiment de développer ces projets impact que je porte parce qu'ils impactent la vie de tellement de personnes et que quand je vais ensuite dans les villages rencontrer les gens, je me rends compte de ce pourquoi je travaille. Et donc, c'est d'arriver à cet objectif des 5000 emplois. 5000 emplois, c'est 5000 familles qui changent et dont le quotidien change. Ça, c'est en gros dans mon rêve. Et puis, c'est clairement d'avancer. C'est peut-être complètement utopique, etc. Mais dans un monde plus juste, un monde où effectivement, des jeunes qui sont nés... au Sénégal, ont autant de chances que des jeunes nés à New York ou nés à Paris. Et ça, j'y crois fortement parce qu'ils n'ont pas moins de potentiel, ils n'ont pas moins d'intelligence, ils ont beaucoup de résilience, voire plus.
Ouais.
Et voilà, donc je rêve de changer les choses. Donc dans mon cahier des rêves, il y a beaucoup de changements, sauf dans ma vie familiale où je souhaite que le bonheur et l'amour persistent.
Persistent, voilà. Bien sûr, pour toujours.
Et les discussions avec mon père persistent. Quotidiennes.
C'est superbe, c'est superbe ça. Ma toute dernière question pour cet épisode qui est très fort en fait, dans lequel on entend les voix de ton père, de ta mère, de ta famille, ça revient toujours. Tu es aussi une maman, qui est une maman très visible et active, avec plein de succès, plein de rêves, tu nous as ouvert ton cahier. Mais je pense que c'est pas forcément facile à porter d'ailleurs avec des enfants et une famille. Alors, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu diras à Abby et Isaac lorsqu'ils seront un peu plus grands et qu'ils se poseront des questions sur le sens de leur vie, finalement? Ça sera quoi ton message? Ça sera quoi ton appel, peut-être au quotidien de maman vers Isaac et Abby? Tu leur diras quoi?
Maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour que vous ayez pleinement conscience que la liberté n'a pas de prix. Et tout ce que maman a réalisé aujourd'hui, c'est grâce à la conquête de sa liberté.
La liberté n'a aucun prix. C'est un message très inspirant à partager avec ses enfants. Et c'est aussi un appel à l'action pour tous les autres. Vous contrôlez votre destin, quelles que soient vos origines ou votre éducation. Vous pouvez réussir selon vos propres conditions si, comme Absatou, vous cultivez la force de votre caractère et la détermination nécessaire pour y parvenir. Je m'appelle Jean-Philippe Courtois, vous avez écouté le podcast Positive Leadership. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous laisser un commentaire ou une note de 5 étoiles. Et rendez-vous sur ma page LinkedIn et inscrivez-vous à ma newsletter mensuelle gratuite, le Leadership Positif et vous. Merci d'avoir écouté et à bientôt.